Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
En Côte d'Ivoire, c'est donc une opposition unie qui a tenu samedi un grand meeting au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Un meeting censé marquer le début de la désobéissance civile pour faire barrage à la candidature d'Alassane Ouattara à un troisième mandat. L'opposition entendait faire de ce rassemblement une démonstration de force. Le rassemblement a certes rassemblé des milliers de personnes. Tous les opposants qui se sont succédés sur le podium ont rappelé leurs revendications pour une élection présidentielle transparente, équitable. On retiendra notamment qu'Henri Colombédier a appelé l'ONU à se saisir du dossier ivoirien pour, je cite, « mettre en place un organe électoral véritablement indépendant et crédible ». Pascal Affine-Guessant, quant à lui, a réclamé une fois de plus une transition politique, mais aucune annonce concrète n'a été faite concernant les actions à mener dans le cadre de la désobéissance civile. Nous sommes à 3 semaines du scrutin. Les militants et les sympathisants ne savent donc toujours pas comment interpréter ce concept de désobéissance civile. On en parle évidemment durant les 20 prochaines minutes. Vous nous dites si cette stratégie de l'opposition vous semble suffisamment claire. 33 9 693 693 70 et vos commentaires sur WhatsApp et sur Facebook. J'ai par exemple sous les yeux le commentaire de Quadio. Quadio était présent, il était dans le stade. Il nous dit ce meeting était phénoménal. Il a réuni tous les leaders politiques de l'opposition sans exception. J'y étais, j'ai senti sur tous les visages l'envie d'en finir avec le régime d'Alassane Ouattara. À noter, nous dit Quadio, que le remplissage du stade s'est fait lentement, mais sûrement lentement à cause du blocage des accès du quartier du Plateau, quadrillé, dit-il, par l'armée. Ange Thomas, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Abidjan, Ange Thomas. Vous disiez au Standard avoir tenté d'aller au stade samedi dernier, mais c'était impossible pour vous.
Oui. Bon, avant tout, Juan, permettez-moi de féliciter l'opposition ivoirienne pour cette forte mobilisation. Oui. Effectivement, le samedi, j'ai essayé de me rendre au plateau. Malheureusement pour moi, j'ai été empêché par des chars de l'armée de Côte d'Ivoire, empêchant des militants d'aller manifester au stade. Mmh. Oui, effectivement, je me suis rendu, mais malheureusement, pour moi, je n'ai pas eu accès au stade.
Vous n'avez pas eu accès au stade. Que vous ont dit les militaires pour vous empêcher d'aller de l'avant et d'aller jusqu'au stade? Quelles étaient les raisons invoquées?
Des raisons fallacieuses.
Non, mais concrètement, que vous ont-ils dit, Ange Thomas?
Nous, on peut savoir que le stade était rempli. Il fallait qu'on rentre à la maison.
Mmh.
Et là, en fait, un de mes amis qui venait de Vieux-Pougon, le cas a été victime de caillassage.
Mmh.
Il a été poignardé au niveau des côtes.
Mmh.
Actuellement, où je vous parle, il est à l'hôpital.
C'est vrai que l'opposition s'est plaint de mesures visant à décourager les militants de se rendre au stade. Votre témoignage, Ange Thomas, en tout cas, le démontre. Effectivement, il y a eu un car qui a été attaqué à Vieux-Pougon par, dit-on, des délinquants. Ange Thomas, quand vous dites que c'est un succès pour l'opposition, qu'est-ce qui vous permet d'être aussi affirmatif, Ange Thomas? Le stade, il y avait du monde, mais le stade n'était pas rempli. Tout de même.
Mais Juan, lorsqu'on empêche plus de 100 cas d'avoir accès à Abidjan, ça veut dire qu'on a peur de quelque chose. On a peur de quelque chose. Mais au-delà de toute chose, je veux dire une chose. Mmh. Aujourd'hui, Juan, la peur a changé de camp. C'est le régime d'Abidjan qui a peur.
Mmh.
Parce qu'aujourd'hui, lorsque l'opposition va se rassembler, il faut mettre des microbes sur la rue. Mais là,
microbe, c'est l'expression qui est utilisée pour dire délinquant, c'est ça?
Délinquant est encore bon. Mmh. Acceptez le mot microbe.
Bon, Ange Thomas, je voudrais qu'on donne la parole à d'autres auditeurs et on va voir évidemment ensemble voir quel est le contenu réel de la stratégie de l'opposition ivoirienne. Arsène, bonjour.
Bonjour, Juan.
Alors, avez-vous été convaincu par la mobilisation de samedi?
Pas du tout, parce que j'ai tenu à être présent moi-même au stade pour avoir mon impression personnelle. Et la mobilisation, je suis arrivé au stade à 11h, je suis resté une heure au stade, j'ai quitté le stade à midi, le stade était clairsemé, les abords du stade étaient vides. Et lorsque j'écoute l'auditeur précédent qui me dit qu'il a été empêché, moi je trouve qu'il raconte des contre-vérités. Parce que moi je suis allé au plateau et je suivais un groupe de militants qui avaient des sifflets, qui scandaient, qui chantaient des slogans en faveur de l'opposition. Ils ont traversé, j'étais avec eux. Je les suivais, ils ont traversé, les forces de l'ordre ne les ont pas empêchés. Oui. Mais... moi-même, je suis entré au stade côté ambassade de France. C'était fluide, les forces de sécurité étaient polies. J'ai fait exprès pour leur demander à eux-mêmes la voie du stade. Ils me l'ont indiqué sans problème.
Oui. Donc, il y avait un important, en tout cas, il y avait un important dispositif policier. L'opposition dit effectivement que les abords du stade ont été fermés à la circulation, ce qui a obligé tout de même les sympathisants à marcher sur plusieurs kilomètres pour arriver au stade. Vous disiez, et je vous crois sur parole, Arsène, que aux alentours de 11h, quand vous êtes arrivé dans le stade, il y avait peu de monde, mais les gens sont arrivés au fur et à mesure. Dans l'après-midi, il y avait beaucoup plus de monde que le matin.
Juan, pour un collectif de 12 leaders qui ont été aux affaires en Côte d'Ivoire durant des décennies, pouvoir remplir le stade sur toute une journée, ce n'est pas un exploit.
Oui.
Le problème est de demander à quel moment ils auraient pu remplir le stade. En comparaison, j'étais à l'investiture du président Ouattara. Le stade était rempli dès 6 heures. Dès 6 heures, moi-même j'étais dans le stade, aux alentours de 8 heures, je suffoquais, je ne pouvais pas tenir tellement il y avait du monde, j'étais obligé de ressortir pour suivre la suite de la manifestation sur l'écran géant.
Donc pour vous c'est un échec, si l'opposition n'a pas réussi à remplir le stade Félix Houphouët-Boigny, c'est que c'est donc un échec. Kelly Tigui sur WhatsApp nous dit que 20 opposants dits significatifs, arrivent à peine à rassembler 30 000 personnes, c'est vraiment un échec total, ce qui n'est pas surprenant puisqu'il n'y a aucune lisibilité dans la stratégie de l'opposition. Bonjour Alfred.
Bonjour.
Vous êtes à Dabou. Dabou, c'est à l'ouest d'Abidjan, c'est pas très loin d'Abidjan.
Tout à fait.
Exactement, on vous écoute.
Ben, moi, je suis d'accord avec l'auditeur qui vient de passer. En fait, l'opposition en Côte d'Ivoire a un problème. En face, ils ont quelqu'un dont le bilan parle pour lui, c'est le président Ouattara. Comment l'éliminer? C'est ça leur problème. Ils ont voulu passer par la voie juridique. Ça n'a pas marché. Le Conseil constitutionnel les a contredits. Et maintenant, ils utilisent d'autres moyens. Bon, je pense que c'est pas comme ça qu'on doit avancer en Côte d'Ivoire. Voilà.
Oui.
Donc, je pense qu'il faut aller aux élections. Si tant ils ont du monde avec eux, qu'ils aillent aux élections tranquillement. Et que celui qui gagnera, bon, s'engage après à régler les questions qui fâchent tranquillement. Et puis la Côte d'Ivoire va avancer.
Ouais. Vous diriez que l'opposition a quand même relevé le défi de la mobilisation samedi?
Ben, écoutez, il y a deux grands partis dans l'opposition, le FPI et le PDCI. Moi, je serais surpris qu'ils ne remplissent pas le stade quand on me dit que... Ils ont mis du temps à remplir le stade, ça veut dire que l'opposition doit se poser des questions.
Enfin, Pelanant affirme, lui, sur WhatsApp, que ce rassemblement a été une véritable démonstration de force, malgré, dit-il, les intimidations et le blocage du quartier du Plateau. Le quartier du Plateau, c'est là où se trouve justement le stade, Félix Houphouët-Boigny. Alfred, merci beaucoup de cette réaction. Bonne journée donc à Dabou. Tiens, on va vers Yamoussoukro, d'où nous appelle Augustin. Bonjour Augustin.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Alors, diriez-vous que c'est un échec ou un succès pour l'opposition?
C'est un succès pour l'opposition. Nous avons eu des amis, je ne suis pas d'accord avec les précédents auditeurs, surtout les deux auditeurs qui viennent de passer. Et nous avons eu, moi je suis à Yamoussoukro, nous avons eu des amis qui nous ont appelés d'Abidjan. Et déjà dès 7h du matin, les deux ponts étaient bloqués, en l'occurrence le pont Félix Houphouët-Boigny qui relie le plateau à Trècheville, Port-Bou et autres. Et qui était bloqué, donc il n'y avait même pas de passage. Et il y a eu des mesures d'intimidation. Il y a des militants même qui devaient partir de Yamoussoukro. Ils n'ont pas pu partir à cause des mesures d'intimidation.
Quelles mesures d'intimidation? Concrètement, Augustin, de quelles mesures d'intimidation parlez-vous? Concernant Yamoussoukro, hein, votre ville.
Avec les menaces par-ci par-là, donc ils ne sont plus partis. Et puis ils craignaient le scénario guinéen. Vous voyez?
Quel scénario guinéen? Quel scénario?
Le scénario guinéen, c'est ce qui a eu lieu le 28 septembre au stade là où il y a eu des morts, donc ils craignaient cela.
Effectivement, 28 septembre 2010, lorsque l'opposition se rassemble dans le stade du 28 septembre à Conakry pour un meeting, et ce meeting s'est transformé en massacre, hein, en massacre pour dire clairement les choses. Augustin, malgré tout, visiblement à vous entendre, vous semblez être sympathisant de l'opposition, vous comprenez cet appel à la désobéissance civile ?
Oui, je comprends bien, c'est le moyen... Et c'est le moyen dont l'opposition dispose pour pouvoir se faire entendre autant au plan national qu'au plan international. L'ONU a été interpellée parce que mieux vaut prévenir que guérir.
Hein? Henri Colombédi a bien fait d'interpeller l'ONU.
Oui, bien sûr, bien sûr. Puisque c'est l'ONU, c'est un organisme chargé du maintien de la paix. En 2010, l'ONU était là pour s'interposer entre les belligérants. Donc c'est tout à fait normal qu'on l'interpelle, comme je viens de le dire, mieux vaut prévenir que guérir.
Augustin, j'entends bien, ne raccrochez pas, on a l'Océanie d'Abidjan qui souhaite justement revenir sur cet appel d'Henri Colombédier, appel à l'ONU, pour mettre en place un organe électoral véritablement indépendant et crédible, ce sont les propos du chef du PDCI. Bonjour l'Océanie.
Bonjour Juan.
Vous dites appeler à l'ONU, c'est vraiment désespérant.
C'est désespérant, puisque, regardez, nous avons un président qui est là, des institutions qui sont bien installées. Pourquoi en 2010 on a fait appel à l'ONU ? Parce que toutes les parties étaient disponibles pour ça. L'opposition n'a pas de stratégie. L'opposition n'a pas... L'appel à la désobéissance civile, ça a été un fiasco. On a cru que le dimanche, que le samedi, l'opposition nous a promis un tsunami. Mais ça n'a pas été
de tsunami. Il y avait du monde dans le stade, mais le stade n'a pas été rempli. Augustin, vous êtes toujours avec nous de Yamoussoukro.
Toujours Andy.
Oui, vous disiez oui, il faut la désobéissance civile, mais il y a rien eu de concret, il y a rien eu d'annoncé concrètement concernant les actions à mener dans le cadre de la désobéissance civile. Comment vous interprétez-vous cet appel à la désobéissance civile ? Qu'est-ce que vous mettez derrière ces mots-là ?
C'est la stratégie mise en place par l'opposition. Faut pas dévoiler le secret, sinon l'ennemi pourra l'utiliser. Même avant ce meeting, si vous avez une chose sur la toile déjà, M. Adjoumani, ministre, menaçait déjà. Alors donc, il faut adopter des stratégies pour pouvoir combattre. Et l'opposition disait comme ça que la désobéissance ne veut pas dire nécessairement casser tout dans les rues.
Bien sûr.
Mais la désobéissance, c'est pour défier l'autorité. C'est pour défier l'autorité, ça dit ne pas respecter même l'autorité, c'est tout.
Ouais, c'est ce que dit l'opposition, hein. La désobéissance civile, ce n'est pas appelé au désordre, ce n'est pas appelé à la casse, ce n'est ni cassé ni brûlé. Voilà pour les propos du PDCI, du FPI, d'Affine Guessant également. Merci infiniment Augustin de nous avoir appelé. Bonne journée à Yamoussoukro, l'Océanie, vous nous rappelez quand vous le souhaitez évidemment. Bonne journée à Abidjan. Bonjour Franck. Vous avez un témoignage, Franck. Je vois sur la petite fiche qui m'arrive du Standard que vous étiez dans un bus pour vous rendre au stade samedi.
Exactement.
Que s'est-il passé, Franck ?
Alors, donc, j'ai décidé en fait de répondre comme d'autres d'ailleurs à l'appel de l'opposition pour participer à la manifestation pacifique au stade. Et en route pour le stade, justement, après le 43e Bimar, à un feu. Donc le bus est immobilisé et dans cette zone-là vous avez des broussailles à droite et vous avez des individus qui sont sortis justement de ces broussailles-là et également à gauche des personnes ont quasiment encerclé le bus et se sont fait menaçants en nous demandant effectivement de descendre immédiatement et ont commencé à taper le bus de part et d'autre. Alors on a refusé d'obtempérer, voilà, et puis ils se sont armés justement de cailloux, de grosses pierres, et ont carrément brisé les vitres. Voilà, c'est à peu près ça ce qui s'est passé. Et naturellement, on a pris peur, moi personnellement j'ai pris peur.
Et donc vous êtes retourné à la maison plutôt que de continuer votre chemin vers le stade ?
Oui, pas tout à fait, parce que quand ça s'est passé comme ça, on a pu, avec l'aide du chauffeur, on a pu effectivement démarrer en catastrophe. Et je vais dire, il y a une distance d'environ 1 km, 2 entre là où l'incident s'est produit et un peu devant, il y a un camp de gendarmerie. Et donc, on a préféré effectivement passer par là. Tout le monde n'était pas d'accord parce qu'il y en a dans le bus qui ont dit effectivement que c'était des intimidations. Donc, il fallait malgré tout poursuivre le chemin. Et moi, je faisais partie de cette moitié de personnes qui ont décidé effectivement de faire une halte dans un premier temps à la gendarmerie pour faire constater ce qui s'est passé.
Oui.
Et puis, par la suite, voir s'il y a lieu de continuer de faire demi-tour.
Bon, non, alors Franck, ça en dit long donc sur la tension qui règne en ce moment en Côte d'Ivoire. On est à 3 semaines de l'élection présidentielle. Franck, au-delà de ce témoignage, que diriez-vous de la stratégie de l'opposition, de la stratégie de votre candidat?
Alors, déjà, au niveau de la stratégie, je pense qu'on a l'impression effectivement que les choses sont pas cohérentes, mais moi je suis pas de cet avis-là. Parce que là, vous avez effectivement une CEI qui n'est pas en mesure de pouvoir organiser ces élections-là de manière crédible. Vous avez un conseil constitutionnel qui s'est discrédité, tout le monde le sait, je vais pas revenir dessus. Mais je pense que l'idée effectivement c'est d'emmener par ces mesures-là de pouvoir prendre conscience effectivement que il est impérieux pour l'avenir de notre pays de discuter et de trouver justement un cadre consensuel pour partir aller tranquillement à ces élections-là.
Donc il faut trouver un cadre consensuel avant le 31 ou d'ores et déjà vous faites partie de ceux, Franck, qui appellent à un report du scrutin présidentiel?
Oui, tout à fait.
Oui au report ou pas?
Oui, absolument. Le 31 octobre n'est pas tenable.
Bon. Franck, je vous ai laissé parler un petit moment. Il y a d'autres auditeurs qui s'impatientent au standard. Merci infiniment de cet appel et de ce témoignage. Bonjour Christian.
Oui, bonjour.
Alors, cette stratégie de l'opposition ivoirienne, est-ce qu'elle vous semble suffisamment claire?
Non, pour moi non.
Eh bien, allez-y, expliquez-nous pourquoi.
J'estime dans un premier temps qu'il faut... c'est clair, on dira que ça relève de la stratégie de l'opposition, mais une stratégie se décline de façon opérationnelle. Donc, il faut au moins décliner des éléments opérationnels pour que les militants puissent éventuellement se sentir concernés ou éventuellement se retrouver dans ce qui est en train de se faire.
Christian, excusez-moi, est-ce que vous avez branché le haut-parleur?
Oui, j'étais
avec lui. Retirez. Oui, parce que le principal, c'est qu'on vous entende et qu'on comprenne vos propos. Donc, vous nous disiez, Christian.
C'est pas clair, on parle de désobéissance civile, mais oui, derrière la stratégie, on va pas la présenter. Mais il faut quand même décliner tous les actes opérationnels en griffe pour que les militants puissent comprendre. Parce qu'aujourd'hui, on parle de désobéissance. Qu'est-ce que c'est?
Bah oui.
Et les gens ne vont pas au travail. C'est quoi les implications quand ils se font virer?
Ouais. Christian, vous êtes vous-même sympathisant de l'opposition?
Je dirais pas, je suis plutôt neutre.
Oui,
mais je suis pour qu'il y ait en fait, une revue, une remise à plat en fait de tout le process.
Mais vous seriez prêt à suivre un appel à la désobéissance civile ou pas?
Je vous avoue que ça dépend. Il y a des exemples qui ont montré que on n'est pas vraiment pour l'accompagnement. Il y a eu la dame de la société civile qui s'est fait arrêter. Qui est en prison, qui a perdu son boulot, je n'ai pas vu l'opposition aller la soutenir.
Ouais.
Donc aujourd'hui, demain, je perds mon boulot pour un truc politique qui s'occupe de ma famille, je ne pense pas.
Ouais. Mais vous n'êtes pas le seul à aller dans ce sens-là. On a reçu plus d'un millier de commentaires tout au long du week-end sur WhatsApp et sur Facebook. Et c'est vrai que plusieurs auditeurs, j'essaie de retrouver les commentaires, mais en substance, ils disaient une grande majorité de la population est fatiguée des crises à répétition et personne aujourd'hui n'a envie de se sacrifier pour une classe politique qui ne pense... En gros, qu'à elle. Voilà ce qui ressort de certains commentaires. Merci infiniment, Christian, de cette réaction. Demain, on parlera d'une autre élection présidentielle, celle qui se tiendra dimanche en Guinée. Hier, le président Alpha Condé, qui brigue un troisième mandat, a entamé une tournée à l'intérieur du pays. Quant à l'opposant, c'est Oudalin Diallo. Il devait tenir meeting à Cancan, bastion électoral du président sortant. Eh bien, son cortège a été bloqué sur la route et il n'a pas pu tenir ce meeting. La dernière ligne droite avant le scrutin présidentiel guinéen, ce sera